le nom du Seigneur soit béni. La présence du Seigneur est là encore ce soir. Et il a toujours quelque chose à nous dire parce qu'il nous aime. En effet, lorsqu'il nous parle, c'est toujours parce qu'il nous aime. Il nous parle, pas toujours comme on le voudrait, mais c'est le Maître. Et nous devons le laisser parler comme il veut. Mais nous ne devons jamais oublier que c'est un cœur plein d'amour pour chacun d'entre nous. Nous ne devons jamais oublier cela, que c'est par amour qu'il nous parle, qu'il nous enseigne, qu'il nous instruit, qu'il nous corrige, qu'il nous reprend toujours par amour. Laissons-nous donc porter par cet amour et que sa parole porte du fruit dans nos cœurs. Plus que jamais, nous avons besoin de méditer sa parole, de nous laisser sonder par sa parole. Le thème de notre séminaire est le discernement spirituel, le besoin d'avoir ce discernement dans ces temps de la fin. C'est un besoin urgent, j'allais presque dire, c'est notre survie. Et où allons-nous trouver ce discernement spirituel, toujours et encore dans la sainte parole de Dieu. Amen. C'est la source de toute sagesse, de tout discernement. C'est pourquoi nous allons constamment méditer les saintes Écritures et trouver en elles le discernement, la sagesse que nous avons besoin pour notre vie spirituelle. Et surtout pour ces temps de la fin. Nous allons lire, si vous le voulez bien, dans l'épître de Paul à Timothée, dans la deuxième épître, au chapitre 3, l'apôtre Paul a souvent exhorté son disciple Timothée à affronter les temps de la fin. Il l'a constamment mis en garde, comme un père veut aider son enfant. Et il lui a dit des choses très importantes que nous devons nous aussi méditer. Et nous allons voir quelques pensées importantes dans 2 Timothée chapitre 3. Nous allons lire tout ce chapitre qui a 17 versets pour bien nous imprégner de cette parole urgente que l'apôtre donne à son disciple Timothée et qui correspond parfaitement au temps dans lequel nous vivons. En lisant ce passage, on a l'impression de lire dans le journal de ce matin, n'est-ce pas? Vraiment, la parole est d'une actualité frappante. Et ensuite, dans ce passage que nous allons lire, ce chapitre que nous allons lire, nous allons retenir sept mots importants, sept mots qui ont une importance capitale pour chacun d'entre nous. De Timothée 3, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péchés, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Jannès et Jambrès s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Mais ils ne feront pas de plus grand progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelles souffrances n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelles persécutions n'ai-je pas supportées? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises dès ton enfance. Tu connais les saintes Écritures qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. Quelle parole! On pourrait passer des journées ou des semaines sur ces textes-là et nous aurons toujours quelque chose à dire. Mais nous allons concentrer notre méditation précisément sur ce thème qui est devant nous du discernement spirituel dans ces temps de la fin. Nul n'ignore que nous vivons un temps de grande confusion, un temps de grande séduction, et il nous faut savoir où nous en sommes, il faut savoir quel est le fondement de notre vie, il faut savoir plusieurs choses importantes. C'est pourquoi l'apôtre Paul commence à parler à Timothée en lui disant une première chose, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Le premier mot que nous allons souligner, c'est ce verbe-là, savoir. Sache. C'est comme si Paul disait à Timothée, tu dois savoir certaines choses, mon enfant. Tu sais certaines choses, mais tu dois savoir certaines choses. Si tu veux accomplir ton ministère efficacement jusqu'à la fin, et si tu veux aussi conduire les autres dans le chemin de la vérité et de la bénédiction, il faut que tu saches certaines choses. C'est très, très important. Alors, nous allons juste méditer quelques instants sur ce verbe-là, savoir, sache. Quand nous examinons un peu de près ce que le mot grec veut dire, ça nous aide toujours un peu plus. Et là, il y a quelques pensées précises concernant ce verbe-là. Ce verbe veut dire, Timothée, sache, réalise les faits, sois conscient de ce qui va arriver. Une meilleure traduction pourrait être, ne sois pas ignorant de certains faits alarmants qui arriveront certainement à la fin des temps. Ne sois pas ignorant. Des choses certaines vont arriver. Ces choses arriveront dans le monde que nous le voulions ou pas. Nous ne pouvons rien changer. C'est comme si Paul disait, ce sont des choses qui vont arriver et rien ne pourra changer à cela. Il y a donc dans ce « sache » quelque chose d'irréversible. Ça arrivera. Ni le prière, ni nos prières, ni les jeûnes, ni quoi que ce soit ne peuvent changer. Ce sont des choses qui vont arriver. Et tu dois le savoir. Et des choses alarmantes arrivent.
des choses périlleuses. Nous devons être prêts. Dans le monde commence à planer totalement, vous êtes d'accord avec moi? Avec le nouvel âge, avec cet âge d'or qu'on nous propose maintenant. Alors ils vont au-devant de grands espoirs, mais ils ne se doutent pas de ce qui va leur arriver. Le monde plane et n'est pas dans la réalité, parce que le monde ne sait pas ce qui va arriver. Le monde est séduit. C'est pourquoi Paul dit à Timothée, le monde est séduit. Le jugement va venir comme un ouragan, comme une tempête. Mais toi, mon enfant, tu dois savoir ce qui va arriver afin que tu avertisses aussi les enfants de Dieu. Tu dois le savoir. Quelque chose de sûr et certain va arriver. Nous ne pouvons pas douter de cela. C'est ce que le mot grec veut dire ici. Sache. Donc c'est quelque chose sûr et certain. Il n'y a pas de doute à avoir là-dessus. C'est pourquoi nous aussi, les chrétiens, nous ne devons pas trop planer aussi. Dans le sens que nous attendons des choses extraordinaires. Dieu, bien sûr, agit dans ce monde. Mais laissez-moi dire une chose. Il ne faut pas trop planer non plus. Et faire la politique de l'autruche. En mettant la tête dans le sable et en disant « tout va très bien ». Et nous attendons de grandes choses comme si c'est seulement cela qui va arriver. Mais nous risquons d'être découragés. Nous risquons de nous arrêter dans notre course. Car d'ailleurs, même beaucoup de chrétiens, pendant des années, par exemple, ils prient pour le réveil et ce réveil n'est toujours pas là. Et ils se découragent. Vous êtes d'accord avec moi? Ils se découragent, ils se découragent, ils se découragent. Et ils se disent, mais qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va vraiment se passer quelque chose? Est-ce que nous attendons quelque chose que Dieu vraiment veut donner? Maintenant, il y a une confusion. Voyez-vous, on parle du discernement. Et je crois qu'il faut toujours que les choses soient bien claires dans notre esprit. Bien souvent, lorsque nous entendons parler de réveil, c'est, voilà, Dieu qui agit au milieu de son peuple, voyez-vous, et puis à un tel point que les païens se convertissent presque automatiquement, sans qu'on leur prêche la parole, sans rien du tout. On attend que tout se fasse un petit peu, mécaniquement, automatiquement, à partir du moment où l'Église bouge, ça va se faire automatiquement chez les païens. Je ne vois pas du tout ça dans la parole. Chaque fois qu'un réveil a éclaté dans les Écritures, dans le Nouveau Testament, c'est toujours suite à la prédication de la parole. Amen.
Amen.
Toujours suite à la prédication de la parole. Prier, c'est bien. Mais prier ne veut pas dire que nous ne devons pas prêcher cette parole. Nous voyons les apôtres partir partout et prêcher la parole. Et le Seigneur confirmait cette parole par les miracles qui l'accompagnaient. Et là, il y avait des mouvements de l'esprit. Nous rentrons du Burundi au mois de janvier, nous avons vraiment vu un mouvement de l'esprit. La parole de Dieu a été prêchée. Le Seigneur l'a confirmée par de nombreuses conversions et de nombreux miracles. Nous avons vu sa main à l'œuvre. Et partout dans le monde, où l'Évangile est annoncé avec fidélité, Dieu confirme cette parole et des multitudes sont sauvées et guéries et délivrées. Alléluia.
Amen.
Ça, c'est l'évangélisation.
Amen.
Et partout où la parole de Dieu sera annoncée avec fidélité, l'Esprit de Dieu agira.
Amen.
Il y aura des mouvements de l'Esprit. Mais à côté de cela, bien souvent, nous entendons parler de réveil, mais si vous lisez les Épîtres, si vous lisez un peu, à la place d'un réveil, Dieu nous parle dans le monde, dans l'Église, pardon, d'une apostasie qui vient. Amen. D'une apostasie. Quand vous lisez les Épîtres de Paul et tout cela, vous ne voyez pas que Paul promet un grand réveil dans les temps de la fin. Dans l'Église. L'évangélisation est là, ça c'est à côté, où nous devons prêcher, n'est-ce pas? Il y aura des mouvements d'esprit, mais dans l'Église. Voyez-vous, il faut bien faire attention. Dans l'Église, nous pensons qu'on va s'attendre à de grandes choses, alors que la Bible dit que l'apostasie pénètre, vient. Et si nous ne savons pas cela, nous risquons d'être déçus. Et combien ont prié, ont jeûné, ont fait cela, attendant un réveil, et rien ne se passe, alors que Dieu nous demande de prêcher sa parole. Amen. De prêcher sa parole. Et que Dieu ainsi confirmera sa parole par des conversions et des miracles. Alléluia. Voilà notre tâche. Il ne faut pas confondre, il ne faut pas qu'il y ait la confusion de ce côté-là. N'est-ce pas l'apôtre Pierre qui a dit, dans les derniers temps, je répandrai mon esprit? Ah oui, dans les derniers temps. Mais c'est Pierre qui a utilisé cela. Les derniers temps ont commencé quand? Les derniers temps, ce n'est pas juste avant le retour du Seigneur. Les derniers temps ont commencé à la Pentecôte. Amen. Puisque Pierre lui-même a dit, dans les derniers temps, Dieu a dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Et nous, dans notre esprit, c'est dans les derniers temps, juste avant le retour du Seigneur. C'est pas ce qui est écrit. Dans les derniers temps ont commencé avec l'apôtre Pierre, à la Pentecôte. Alléluia. C'est dire que le Saint-Esprit a été répandu dès la Pentecôte. Et l'Esprit de Dieu agit maintenant. Et comment est-ce qu'il agit? Lisez les actes des apôtres, lisez les épîtres. Partout, il prêchait la parole de Dieu. Il prêchait fidèlement cette parole. Dieu la confirmait. Et des miracles se passaient, des conversions avaient lieu. Alléluia! Il est dit que la parole de Dieu se répandait avec puissance. Alléluia! Mais nous ne voyons jamais un endroit où il prie, et il ne faut rien du tout, sans prêcher, attendant un réveil qui ne vient pas. Voyez-vous, il y a beaucoup de confusion dans les esprits. Et les réveils souvent dont on parle, on prend des exemples dans l'Ancien Testament et on veut nous ramener dans l'Ancien Testament. Ça aussi, c'est un autre danger. On ne vit plus sous le temps de l'Ancien Testament, vous êtes d'accord avec moi? Le réveil, l'action du Saint-Esprit que nous voulons, c'est celle du Nouveau Testament. Amen. Après la croix et la résurrection. Dans l'Ancien Testament, Jésus n'était pas encore venu. Il n'y a pas eu la croix, ni la résurrection, ni l'effusion du Saint-Esprit. Donc nous ne pouvons pas essayer d'imiter ces réveils, alors qu'eux n'avaient pas expérimenté la puissance du Saint-Esprit, ni la croix, ni la résurrection. Pourquoi est-ce que je dis cela, mes chers amis? C'est pour que beaucoup se sont découragés. Et on met bien souvent des fardeaux sur les chrétiens. Et ils n'arrivent plus à les porter. Ils attendent quelque chose que finalement, ça n'arrive pas. Alors que la Bible dit le contraire. Sache que dans les derniers temps, on le verra encore, il y aura d'autres passages. Mais il ne faut pas confondre justement l'évangélisation qui est le lot de tous les chrétiens. Et partout où cette parole est annoncée avec fidélité, Dieu la confirme et il y a des mouvements de l'esprit. Amen. Amen. Et c'est ce que Dieu nous demande. Voilà notre responsabilité. Mais s'attendre à quelque chose comme ça, on fait un peu comme le Nouvel Âge finalement. On s'attend à quelque chose que... Mais dans l'ignorance. C'est pourquoi Paul dit, sache, Timothée, sache une chose qui va arriver. Il y aura des temps difficiles. Comment des temps difficiles? J'attends un réveil. J'attends un réveil, moi. J'attends pas des temps difficiles. Ah, tu peux l'attendre 107 ans, ton réveil. Les temps difficiles viendront. C'est ce que le mot veut dire ici. Sache. C'est comme si Paul disait à Timothée, tu peux faire tout ce que tu veux. Ça arrivera. Que ça te plaise ou que ça ne te plaise pas, ça arrivera. Il faut que tu le saches. Amen. Le savons-nous? Le sais-tu? Le sais-tu que nous allons au-devant de temps périlleux, alarmant? Le sais-tu vraiment? Où est-ce que nous planons? Il y a beaucoup de chrétiens qui planent. C'est pas seulement dans le monde, mais aussi dans l'Église, il y en a qui planent. Ils sont toujours dans les autres sphères. Ils n'atterrissent jamais. Ils planent tout le temps. Sache, voilà ce que le mot veut dire. Le chrétien n'est ni un idéaliste, ni un pessimiste, il est un réaliste. Amen. Bien faire attention de ne pas tomber dans l'idéalisme ou dans le pessimisme. Paul dit cela à Timothée parce qu'il est réaliste. Le Saint-Esprit est réaliste. Il nous donne de réaliser les choses comme elles sont. Amen. Et ce ne sont pas nos idées qui vont changer quoi que ce soit. Sache, le sais-tu? Le sais-tu? Sais-tu ce qui va arriver? Le sais-tu? En es-tu convaincu? Il le faut pour que tu te prépares. Parce que lorsque les moments difficiles viendront, il faut que tu te tiennes, tu tiennes debout, que tu ne sois pas étonné, surpris. Mais Dieu toujours gardera ses enfants, vous êtes d'accord avec moi? Alléluia! Il n'y a aucune crainte à avoir pour cela. Sache, le sais-tu. Donc c'est un verbe là qui veut dire que ces choses arriveront, nous ne pouvons rien changer. Rien changer. Le deuxième mot, sache que dans les derniers jours, nous allons voir un peu ce que ce dernier jour veut dire ici. Et j'ai noté, dans le mot « dernier jour » ici veut dire, signifie « les derniers des derniers jours » dans le texte grec. C'est « les derniers des derniers jours ». Donc c'est vraiment à la fin de la fin, juste avant le retour du Seigneur. Voilà les choses qui vont arriver. Sache que dans les derniers temps, dans les derniers des derniers jours, voilà ce qui va se passer. Et si vous lisez ce qui se passe, on a bien l'impression d'y être. Vous êtes d'accord avec moi? On y est, on y est. On est donc à la fin de la fin. Le temps est court. Le Seigneur revient.
Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Et Jésus a dit, quand vous verrez ces choses, il n'a pas dit baissez la tête et pleurnichez, et pleurez ou lamentez-vous. Qu'est-ce qu'il a dit? Levez la tête. Car votre délivrance approche. Alléluia. Alléluia. Votre délivrance approche. Gloire à Dieu! Le monde va au-devant de la plus grande catastrophe de l'univers. Mais nous, nous allons au-devant de la plus grande manifestation de l'Esprit. Alléluia! Nous allons à la rencontre de notre Seigneur. Gloire à Dieu! Dans les derniers jours, les derniers des derniers jours, on y est, mes amis. On y est. Juste avant le retour du Seigneur. Alors, combien le Seigneur doit être à la porte? Vous êtes d'accord avec moi? Combien le Seigneur doit être à la porte? Nous sommes dans ces derniers des derniers jours. Un troisième mot maintenant qui va nous aider à bien saisir la gravité de la situation, c'est le mot difficile. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Difficiles. Et là, le mot grec veut dire ceci. Le mot grec veut dire traître, des temps très difficiles, traître, perfide. On pourrait traduire, il y aura des temps périlleux, dangereux, très durs, violents. C'est ce que le mot difficile veut dire. Ce mot est utilisé dans Matthieu 8, 28 pour décrire les deux démoniaques de Gadara qui étaient furieux, violents et dangereux. On ne va pas lire le passage maintenant, mais vous savez, quand les deux démoniaques de Gadara, personne ne les dit, ils étaient si furieux que personne osait passer près de leur chemin. Personne. J'étais si furieux. Eh bien, ce mot furieux, c'est le même que le mot difficile. Alors, vous voyez, ça devient sérieux. C'est pourquoi Paul dit à Timothée, sache que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Des temps. Il y a aussi l'idée d'une menace et d'un grand danger. Voilà les temps dans lesquels nous vivons. Des temps menaçants, un grand danger. Un danger dans le monde, mais aussi dans l'Église. L'Église aussi est menacée. Le chrétien aussi est menacé. Il faut que tu le saches, que nous le sachions. Amen. Il y aura des temps difficiles, donc des temps furieux, violents, très durs. Et nous le voyons, n'est-ce pas, petit à petit dans notre génération, n'est-ce pas vrai? Petit à petit, la violence commence à se répandre dans le monde, n'est-ce pas vrai? et déjà depuis bien longtemps. La violence est là, et l'apôtre l'a prophétisé. C'est en violent, furieux, menaçant. Nous devons être au courant. Nous devons savoir que ces choses vont arriver. C'est pourquoi nous devons agir en conséquence et ne pas nous laisser aller. Amen. Et veiller et prier. Marcher avec le Seigneur. Avoir personnellement sa communion avec Dieu. Veiller à ce que rien ne vienne nous séparer du Seigneur. C'est très important. La communion entre nous est importante. Mais notre communion entre nous dépend de notre communion personnelle avec le Seigneur. Notre communion entre nous sera seulement aussi forte que notre communion avec le Seigneur. Si notre communion avec le Seigneur est forte, notre communion entre nous sera forte. Mais si notre communion avec le Seigneur n'est pas forte, notre communion entre nous ne sera pas forte non plus. Il est donc important de veiller à ce que sa foi ait des racines personnelles. Amen. Amen. Il ne faut plus compter sur le père ou la mère ou le grand-père ou la grand-mère ou le frère ou la sœur. Que de chrétiens comptent sur les autres pour vivre leur vie chrétienne. Le temps est venu, mes chers amis, où nous devons tous avoir notre foi personnelle dans le Seigneur. Les autres peuvent nous aider dans notre vie chrétienne, mais ils ne doivent jamais remplacer notre communion personnelle avec le Seigneur. Amen. Amen. Et notre obéissance personnelle à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Difficile. Il y aura donc des temps menaçants. C'est pourquoi nous devons être avertis. Un homme averti en vaut deux. Il vaut mieux être averti que de dire, ah, oh. D'ailleurs, beaucoup de problèmes dans la vie des chrétiens. Oh non, c'est trop dur. Non, je pensais que moi, la vie chrétienne, c'était toujours Alléluia. Au ciel, ce sera toujours Alléluia. Ici-bas, il y a des Alléluia, mais il y a aussi des Amen. Il faut être un chrétien Alléluia et aussi un chrétien Amen. Il faut être les deux. Ça, c'est l'équilibre. Vous êtes d'accord avec moi? Chrétien Alléluia. Moi, je suis un chrétien Alléluia. Alléluia. Jamais on ne louera assez le Seigneur. Mais être seulement chrétien Alléluia ne suffit pas. Ne suffit pas du tout. Tu dois être aussi un chrétien Amen. Amen, Seigneur. Ta volonté soit faite et non la mienne. Amen. Qu'il en soit ainsi. Même lorsque les choses ne vont pas comme je veux, comme je pense, même si mes circonstances sont tout à fait autres que ce que je pensais, Amen, Seigneur, que ta volonté soit faite. Elle est bonne, agréable et parfaite. Amen, Seigneur, qu'il en soit comme tu veux et non comme je veux. Alléluia. Le chrétien Alléluia et le chrétien Amen, c'est celui-là qui tiendra debout jusqu'à la fin. Amen. C'est celui-là qui aidera les autres aussi à rester debout. Sois un chrétien Alléluia. Loue ton Dieu. Adore ton Sauveur. Mais sois un chrétien Amen. Lorsque les choses ne vont pas comme tu le penses, ne sois pas étonné. Pierre le disait bien. Mais ne regardez pas comme une chose étrange de la fournaise qui est au milieu de vous. Cette Pierre disait, c'est pas étrange, ne soyez pas étonnés. Jésus lui-même nous l'a dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. S'il a vaincu, nous vaincrons aussi. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Vous êtes immortel tant que votre œuvre n'est pas achevée. Alléluia. Même dans l'épreuve, même dans la persécution, nul ne pourra mettre la main sur vous. Si votre œuvre n'est pas achevée, en veut la ta vie. Mais personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Je suis avec toi.
Amen. Personne. Moi, ça m'encourage, ça. Dans le danger, dans l'épreuve, dans la persécution, Dieu est là, ne l'oublions pas. Le bon berger n'abandonne jamais ses brebis. Alléluia. Jamais, 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 jamais. Jamais il ne t'abandonnera. Et au contraire, les expériences les plus glorieuses, tu les feras dans ces temps les plus difficiles. Amen. Est-ce que c'est quand tout va bien que nous faisons les plus belles expériences? Dites-moi un petit peu. Je ne sais pas comment vous êtes, mais moi je fais des expériences quand tout va mal. Justement, c'est là qu'on est comme chaos, par terre, et on dit « Seigneur, maintenant si tu ne fais rien du tout, c'est fini, c'est terminé. Mon compte est fait, c'est fini. » Et c'est là que Dieu se plaît à manifester sa puissance et sa gloire. Amen. Alléluia. C'est pourquoi ne craignons pas les moments difficiles, ces temps menaçants, ne les craignons pas. C'est là que nous ferons les plus grandes expériences et nul ne mettra la main sur toi. Tant que ton heure n'est pas arrivée, ne crains pas. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Difficile, traître, perfide, un temps de perfidie aussi. Vous savez ce que le mot perfide, traître veut dire? Ce qui manque à sa parole, déloyal, trahi celui qui lui faisait confiance. Et nous entrons dans cette période-là de trahison, où les gens abandonnent le Seigneur justement. Ils le trahissent comme Judas. Mais il y en a d'autres qui trahissent aussi leurs frères. C'est un temps de trahison, terrible. Tu dois être averti. Peut-être qu'un jour, toi, tu seras trahi. On t'abandonnera. Ton meilleur ami t'abandonnera. Ton meilleur ami se dressera contre toi. Tu vas dire, mais c'est pas possible. Le meilleur ami. Pendant des années, on était ensemble. Il a mangé avec moi. Et il se tourne contre toi. Ne sois pas étonné. Le Seigneur nous avertit. Ne sois pas étonné. Ne perds pas ta foi. Ne te décourage pas. Jésus est passé par là. Les apôtres sont passés par là. Tu passeras par là. Je passerai par là. Sois fidèle. Amen. C'est ça, les temps menaçants. Les temps de perfidie. Le quatrième mot, c'est le mot « sachez », »,« sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles ». Le mot « temps » maintenant. Il est important aussi de savoir ce que ce mot veut dire. Le mot grec « temps », c'est « kéros », donc je l'ai lu, moi je n'ai pas fait du grec, hein, j'ai juste étudié comme ça certains livres, se rapporte à des périodes de temps telles que décennies ou siècles ou milléniums. Mais ici, l'idée est de « décennies ». Autrement dit, c'est comme si Paul disait à Timothée, sache que dans les derniers temps, il y aura des décennies difficiles, des décades difficiles. Et c'est exactement ce que nous vivons. La méchanceté, la violence vient dans ce monde comme par décades, comme par vagues, n'est-ce pas vrai? Tous les 10 ans à peu près, il se passe quelque chose de nouveau, de nouveau. De nouvelles philosophies, de nouvelles théologies, de nouvelles violences. De nouvelles rébellions. On est étonné. On se demande, mais où ça va arriver? C'est comme par vague. Et Paul lui dit, ça arrivera par vague comme cela. Ne te décourage pas. Et ces vagues vont en augmentant. Le mal va en augmentant. Mais si nous restons près du Seigneur, avec le Seigneur, le bien va en augmentant. Amen. Alléluia. C'est pourquoi, dans cette opposition du mal, l'Esprit de Dieu nous sera donné avec encore plus de force. Amen. Amen. Un en chasseront 1 000 et 2, 10 000. Les temps peuvent être difficiles, mais l'onction sera plus grande. C'est pourquoi, dans ces temps difficiles, nous pourrons faire des expériences merveilleuses avec le Seigneur. Il n'y a rien à craindre, car tout est dans sa main. Et aucun cheveu ne tombera de ta tête sans sa permission. Aucun cheveu. Amen. Alléluia. Aucun cheveu ne tombera de ta tête sans sa permission. Ah, j'aime ça. Si quelqu'un veut venir me toucher, il doit d'abord passer par le Seigneur. Par le Seigneur. Il ne peut pas venir directement, il doit passer par le Seigneur. Il contrôle tout. Il est le maître. Il est le Seigneur. Il est le roi des rois. C'est lui le souverain, le tout-puissant. Il est assis sur le trône. Il y a un passage dans l'Ancien Testament, vous savez aussi, quand il y avait le déluge, qu'est-ce qu'il a dit ? Le Seigneur était sur son trône. Lorsque le déluge s'est déferlé sur ce monde, il était sur son trône. Le Seigneur, lui, n'était pas perdu, il était sur son trône. Alors que c'était vraiment la débandade dans ce monde, lui, il était sur son trône. Il règne. Et en Christ, nous régnons avec lui. Nous n'avons rien à craindre. C'est pourquoi nous devons rester près de lui. Près de lui, nous serons bien gardés. Il y aura des décennies, des décades difficiles. Le cinquième mot, important maintenant, le cinquième mot, car, et maintenant il décrit un peu ces temps difficiles, l'apôtre, et quelle est la première chose qu'il mentionne, car les hommes seront égoïstes. Alors, soulignez bien ce mot égoïste, car c'est bien ce que nous vivons aujourd'hui. Égoïste, ici le mot grec signifie s'aimer soi-même d'une manière maladive et exagérée. Un égoïste, ici dans le texte, c'est quelqu'un qui s'aime soi-même d'une manière maladive et exagérée. C'est être profondément égocentrique. C'est être amoureux de soi-même. Vous vous rendez compte ? C'est se préoccuper de soi d'une manière désordonnée et excessive. C'est ça l'égoïsme. Nous devons bien sûr nous occuper de nous-mêmes, nous respecter nous-mêmes. Ce n'est pas du tout cela que ça veut dire, n'est-ce pas ? Nous devons prendre soin de nous-mêmes. Ça, c'est tout à fait légitime. Mais là, c'est quelque chose d'exagéré. C'est une préoccupation maladive de soi-même. C'est finalement une génération où l'on ne s'occupe que du moi. Et dans la méditation que je lisais, quand il est dit « car les hommes seront égoïstes », même dans le verbe « seront », paraît-il qu'il y a cette expression en grec « je suis ». Autrement dit, ce sera une génération de personnes qui disent « je suis » où le « moi » est sur le trône. Où le « moi » est sur le trône. Et c'est exactement ce que nous vivons avec la philosophie et la psychologie actuelle. Où l'on pousse les hommes et les femmes à ne vivre que pour soi. Où le « moi » est devenu un dieu. Tu dois t'occuper de toi-même, tu dois prendre soin de toi-même à un tel point que tu ne penses plus qu'à toi et plus aux autres. S'occuper de soi-même, vivre pour soi-même, pour son moi, c'est cela même le péché. Amen. C'est cela le péché. C'est vivre pour soi. Et la psychologie actuelle nous dit... Eh bien, tu dois vivre pour toi, prends soin de toi. Aime-toi toi-même. Si tu veux aimer les autres. Et on pousse les hommes, les femmes, et même les chrétiens, à s'aimer eux-mêmes, à tourner autour de leur moi, à faire leurs petits caprices, et à vivre d'une manière... excessive que pour soi-même. Mes amis, voilà la génération qui sera présente lorsque le Seigneur reviendra. Une génération qui a mis le moi sur son trône. Voilà, voilà où nous en sommes. Et il y a des milliers de livres, païens et même chrétiens, qui favorisent cet amour du moi, où on doit s'aimer soi-même, soi-disant pour se valoriser, La Bible nous dit jamais de nous aimer nous-mêmes comme cela, d'une manière excessive. Le moi ne doit pas être couronné. Selon la Bible, le moi doit être renoncé. Amen. Galates 2:20, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis dans la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. La génération de la fin des temps sera une génération où le moi est au centre. Les gens ne veulent faire que ce qu'ils veulent. Quand quelqu'un dit « je fais ce que je veux », c'est cela le péché, mes amis, ne l'oubliez pas. Le péché, c'est faire ce que je veux au lieu de faire ce que Dieu veut. Voilà le péché. Et voilà ce qu'on nous enseigne. Voilà l'esprit du monde. Le moi est mis sur le trône. Et tu dois prendre soin de ton moi. On doit faire tout ce que tu veux, tout ce que tu demandes. Quelle tragédie! L'amour du moi est précisément le péché d'où tout découle. À partir du moment où l'homme fait de sa volonté le centre de sa vie, toute relation avec Dieu, avec les hommes, sont détruites. N'est-ce pas vrai? Il en est ainsi. À partir du moment où on fait de son moi sa propre volonté, il n'y a plus de relation possible avec Dieu et avec son prochain. C'est fini. C'est terminé. L'essence du christianisme n'est pas le couronnement du moi, mais son oubli, son renoncement. Luc 9, 23, 24. Vous connaissez ces passages. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même et qu'il prenne chaque jour sa croix et qu'il me suive. Vous savez, quand Jésus a dit, et là encore, il y a de fausses conceptions, quand Jésus a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ah, alors là, voyez-vous, Jésus a dit, tu dois t'aimer toi-même. Ah, est-ce que c'est cela que le Seigneur a voulu dire? Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jésus met l'accent sur le prochain, non pas sur nous. Il ne nous dit pas, tu dois t'aimer toi-même, on s'aime déjà de trop. Le problème de l'homme, c'est qu'il s'aime trop. Ce n'est pas qu'il ne s'aime pas assez. Et c'est ce qu'on entend aujourd'hui. Vous ne vous estimez pas assez. C'est ça le problème fondamental de l'homme. Il ne s'estime pas assez. Mais son problème, c'est pas ça, c'est exactement le contraire. C'est qu'on s'estime trop. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, comme tu t'aimes toi-même, déjà de trop, eh bien aime ton prochain. Si tu aimais ton prochain comme tu t'aimes toi-même, tu vas aimer ton prochain d'une manière extraordinaire. Mais ce passage ne veut surtout pas dire que Jésus nous dit d'abord de nous aimer nous-mêmes. Non. Jésus met l'accent sur l'amour du prochain, là. Amen. Et quand il dit « tu aimeras ton prochain comme toi-même », ça veut dire que tu t'aimes déjà trop toi-même. Comme tu t'aimes, aime ton prochain. Et tu verras que beaucoup de problèmes seront résolus. Mais l'accent n'est jamais mis sur l'amour de soi, où on tourne autour de soi. Et combien de gens dans le monde ont bu à cette eau empoisonnée du moi, et même des chrétiens. Et ces chrétiens qui ne vivent que pour eux-mêmes sont des chrétiens qui ne grandissent jamais. Continuellement, ces personnes tournent autour d'elles-mêmes. Quelle tragédie! Amen. La vie chrétienne, c'est justement de renoncer à son moi et de dire, Seigneur, je ne veux plus vivre pour moi, mais pour toi et pour les autres. Amen. Les conjugaisons dans ce monde, c'est je, tu, il, je t'aime, tu m'aimes, il s'aime, n'est-ce pas? Mais avec le Seigneur, la conjugaison divine, c'est la même, c'est exactement l'inverse. C'est il m'aime, tu aimes, et le je, il vient à la fin. D'abord le Seigneur, ensuite le prochain, et nous à la fin. Et c'est quand nous sommes dans cet ordre-là que tout va très bien. Mais bouleverser cet ordre, vous serez malheureux. Et quelqu'un qui ne vit que pour son moi, c'est une personne malheureuse. Une personne qui ne vit que pour elle-même, cette personne sera toujours insatisfaite. Amen. Amen. Insatisfaite. C'est pourquoi Jésus a dit, alors, il faut que tu t'oublies toi-même, tu renonces à toi-même. Et tu retrouveras ta vie. Allons un peu plus loin. On en est où déjà? Combien? Sixième, voilà. Sixièmement, un autre mot important. Il se trouve au verset 13, il est dit « Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. » Un mot important ici, c'est « Mais les hommes méchants et imposteurs. » Imposteurs. Le mot « imposteur » ici, dans le grec, veut dire « séducteur ». Et aussi, il y a la pensée de sorcier. Le mot veut dire, en grec, se rapporte à une personne qui fait des incantations, de la magie et de la sorcellerie et qui jette des sorts. Donc il y aura des imposteurs, des sorciers, qui feront de la magie, qui pratiquent l'occultisme. Voilà ce que nous allons voir de plus en plus à la fin des temps. Ces imposteurs. Et il est dit, avanceront toujours plus dans le mal. Ils avanceront toujours plus dans le mal. Et ici, voilà ce que ça signifie. Timothée, si tu penses que les choses sont mauvaises maintenant, attends un peu, les derniers jours. Ce sera alors bien pire que maintenant. Les séducteurs se multiplieront. Paul veut dire que l'occultisme se répandra, voyez-vous quand il est dit, et avanceront toujours plus dans le mal. Ici, il y a la pensée de l'occultisme, la magie, la sorcellerie avance lentement dans les derniers jours. Ce sera si lentement que personne n'y prendra garde. Voilà la ruse. Ça se fait lentement, subtilement, et c'est pourquoi personne n'y prend garde. Mais tout à coup, la chose sera là et ça va se répandre comme un feu de paille. Et c'est pourquoi il est dit, les imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes, égarant les autres. Donc ici, il y a la pensée comme d'un réveil de l'occultisme, de la magie, de la sorcellerie. Et qu'est-ce que le Nouvel Âge, pour parler du Nouvel Âge, comme on en parle beaucoup? C'est un réveil de quoi? Si vous grattez un petit peu, il y a de tout dedans, de l'occultisme, de la magie, de la sorcellerie. Mais ça se fait subtilement et d'une manière très sophistiquée. Écoutez-moi bien, sophistiquée, très sophistiquée, avec des mots savants, des mots très savants, psychologiques, scientifiques. Et les gens, ils disent, mais c'est scientifique, tu as vu, il emploie un terme scientifique. Et puis l'autre emploie un terme psychologique. Quand on parle de scientifique, de psychologique, les gens, ils tombent à genoux. C'est vraiment le Dieu. C'est scientifique, c'est psychologique. Amen, 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 amen. Ils sont comme hypnotisés par cela. Ils avanceront toujours plus. Ces imposteurs. Et par le Nouvel Âge, justement, comme on parle de ça, ça pénètre maintenant. Ça pénètre où? Dans le gouvernement. Est-ce que ça trafique pas, mes amis? Un peu de partout. On va prendre un exemple, c'est partout maintenant. Ça pénètre dans le gouvernement, ça pénètre dans les écoles, ça pénètre dans les familles, ça pénètre dans les maisons. Les enfants sont sous cette influence, à l'école. Et la télé, bien souvent, qui répand ces poisons. Ça avance, lentement, subtilement, mais ça avance. Et tout à coup, un jour ce sera là. Il y a quelque temps, les gens se moquaient du diable, le diable, ils ne croyaient pas, mais maintenant, c'est plus la même chose. Vous êtes d'accord avec moi? Maintenant, il y en a qui prennent le diable au sérieux. C'est maintenant, on ne rougit plus, même en parlant du diable. Avant, on rougissait. On dit, ça n'existe pas. C'est fini, ça. C'est fini. Nous sommes entrés dans une nouvelle période, mes amis. Les imposteurs avanceront. Ça se fait lentement. Et on ne s'en rend même pas compte. C'est pourquoi, mes amis, nous devons savoir ces choses et agir en conséquence. Amen. Amen. C'est là. Il y a un réveil de l'occultisme qui est là, de la magie, de la sorcellerie. Et ça pénètre à tous les niveaux. Nous devons veiller. Nous devons prendre garde. Et un dernier mot pour terminer. Verset 14. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises. C'est le verbe demeurer. Demeure. Demeure, cela veut dire ici, reste ferme à ce que tu as appris. Toi, demeure dans les choses que tu as prises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as prises. Dès ton enfance, tu connais les saintes Écritures qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Et toute Écriture est inspirée de Dieu. Voyez-vous, là, l'apôtre veut lui dire maintenant, pour tenir ferme devant cette vague qui va déferler, alors, il faut que tu sois attaché et que tu demeures fidèle à cette parole qui est inspirée de Dieu, qui a le souffle de Dieu. Cette parole n'est pas une parole humaine, c'est la parole même de Dieu. Alléluia! Qui a la vie, qui a la puissance. Amen. La parole de Dieu a la puissance de Dieu. Amen. C'est pourquoi celui qui cache, qui demeure, qui cache cette parole dans son cœur, qui demeure fidèle à cette parole, n'a pas peur du diable, ni de l'occultisme, ni de la magie. Celui qui est en lui est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Alléluia. Au contraire, l'ennemi fuit et il tremble. Un homme rempli de la parole de Dieu n'aura peur de personne. Amen. Amen. N'aura peur de personne. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises. Demeure. Ne fais pas le malin. Ne pense pas en savoir plus que les autres. Demeure dans ce que tu as appris. Les Saintes Écritures. La parole de Dieu est pleinement suffisante. Amen. Amen. Elle est suffisante pour nous instruire, nous enseigner, nous corriger et faire de nous des hommes et des femmes utiles. Prêt à toute bonne œuvre. Amen. Amen. Cette parole peut te nourrir, peut te transformer. Amen. Et Dieu peut t'utiliser au travers de cette parole que tu auras cachée dans ton cœur. Sois fidèle. Demeure fidèle dans ces temps de la fin. Amen. Sois attaché à cette parole. Et cette parole, garde cette parole dans ton cœur. Et cette parole te gardera jusqu'à la fin. Amen. Amen.